Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Dans la continuité du slogan « Make America Great Again », Donald Trump se place en rupture avec les grands axes de la diplomatie des États-Unis. Sa présidence est porteuse de grands défis pour le monde, tant elle est pour le moins disruptive. Le président américain en déplacement au Vatican ce samedi pour les obsèques du pape François termine les 100 premiers jours de son mandat pied au plancher, mais qu'il pourrait être contraint de lever. Religion, immigration ou diplomatie, il a multiplié les déclarations chocs, les annonces fracassantes et les revirements subis de sa volonté de prendre le contrôle de la bande de Gaza pour en faire la Riviera du Moyen-Orient, d'annexer le Groenland pour ses terres rares, du Canada pour l'intégrer comme le 51e État américain, qualifiant au passage la frontière avec le voisin du Nord de ligne artificielle, du canal de Panama aux attaques à l'encontre du président ukrainien qualifié de dictateur sans élection, en passant par les pourparlers avec Moscou tout en contournant les Européens et avec la volonté de renverser la table et par qu'il le peut, il le fait. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain peine pourtant à résoudre les deux conflits dans lesquels il s'est investi, Ukraine et Moyen-Orient, et à allumer une guerre commerciale prioritairement dirigée contre la Chine. Quel contre-pouvoir, s'il y en a, l'instabilité américaine donne-t-elle de l'espace à l'influence chinoise? Une désescalade est-elle en vue? Regard avec nos invités. Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO et chargée de cours à Sciences Po, auteur du Livre noir de Gaza aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
Paul Charron, directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris, auteur d'un article paru dans Le Monde diplomatique, Les masques du soft power. Bonjour.
Bonjour.
Et Alain Roy, écrivain, éditeur et traducteur, directeur de la revue québécoise L'Inconvénient. Son dernier livre, Le 4 Trump, portrait d'un imposteur qui vient de paraître aux éditions Éco-Société. Bonjour.
Bonjour.
Une enquête de l'Institut Pew menée début avril au moment où le président américain faisait partiellement machine arrière dans sa guerre commerciale pour concentrer ses attaques sur la Chine le crédite seulement de 40% d'opinions favorables, une glissade de 7 points par rapport à février. Les enquêtes d'opinion notent une méfiance grandissante envers la politique économique menée par la Maison-Blanche, mais la plupart s'accordent aussi pour signaler qu'elle n'atteint pas jusqu'ici les partisans du président américain, objet d'une adhésion qui va jusqu'à l'adulation pour une partie de sa base. Dans une Amérique désormais extrêmement divisée politiquement, 70% des électeurs et sympathisants républicains soutiennent les hausses de droits de douane de Donald Trump, tandis que 90% des électeurs et sympathisants démocrates les critiquent, toujours selon Pew Research. Philippe Golub, votre regard sur ces sondages et plus généralement l'Amérique aujourd'hui, comment vit-elle tout ce que Donald Trump lui donne à vivre ?
La baisse de popularité de Donald Trump dans les enquêtes d'opinion est significative, mais pas fondamentale, me semble-t-il, à ce stade. Tous les présidents américains, dans l'exercice de leur pouvoir, après les premiers 100 jours d'expérience, une baisse de leur popularité. Ce qui me semble plus significatif, c'est non pas la rupture, mais les tensions grandissantes entre Wall Street, entre la finance américaine en particulier, et les grandes firmes transnationales américaines d'un côté, et l'administration de l'autre, du fait de la disruption engendrée par la politique commerciale erratique, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette administration. L'attaque tout azimut contre le monde tout entier avec ses tarifs, les revirements qui engendrent une instabilité économique et financière internationale et ont failli provoquer une crise de grande ampleur sur le marché des bons du Trésor américain il y a une quinzaine de jours. Ce qui a provoqué un revirement dans les marchés financiers et provoqué un revirement de la part de Trump, d'ailleurs, sur un certain nombre de tarifs. Cette fracture-là me semble plus significative parce que Donald Trump doit son pouvoir en grande partie à des éléments économiques et financiers importants de Wall Street, aussi bien que ses soutiens dans Silicon Valley. Donc, cette fracture-là sera significative allant de l'avant pour voir que si l'administration va se déterminer par rapport à ça ou non. Non pas les sondages d'opinion au sein de de la population dans son ensemble, parce que, comme vous l'avez dit très justement, la base du Parti républicain reste fortement soudée à Donald Trump, mais les éléments élitaires et bien sûr l'évolution de la situation internationale par rapport à ses impacts intérieurs.
Alors effectivement, ce qui est intéressant à voir et à observer, ce sont les réactions internes aux États-Unis qui pourraient peut-être influencer les futures décisions de Trump en matière de politique étrangère. En tout cas, là aussi, les sondages sont plutôt défavorables sur les sujets sensibles. L'Ukraine, 56% des Américains désapprouve l'arrêt de l'aide militaire à Kiev. Les relations avec la Russie, 61% estiment que Trump n'est pas assez ferme face à Vladimir Poutine. L'OTAN, les velléités de retrait de l'Alliance sont rejetées par près des deux tiers des Américains. Et la politique commerciale avec les nouvelles taxes sur la Chine, le Mexique et le Canada qui font craindre une hausse des prix et une perte de pouvoir d'achat. Nous ne parlerons pas de l'Alliance transatlantique ni de l'Europe dans cette émission aujourd'hui, on en parlera dans celle de demain. Pas de sondage sur la question de la Chine. Paul Charron, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être vous de nous dire comment, quel regard la Chine porte sur ce qui lui est imposé aujourd'hui avec la hausse des tarifs douaniers et comment finalement, depuis le début de la présidence Trump, elle réagit. Elle était prête par ailleurs, la Chine, à cette présidence Trump et son côté disruptif. Paul Charron.
Oui, il le connaissait et il s'attendait sans doute à ce qui est en train d'arriver. Je crois qu'il faut d'abord dire que la Chine est indisposée face à l'attitude de l'administration Trump. D'abord, comme tous les partenaires des États-Unis, ils préféreraient avoir une administration prédictible, donc savoir à quoi s'attendre et pouvoir planifier au moins à moyen terme leur politique et leurs relations avec les États-Unis. Donc ce caractère erratique, imprédictible de l'administration Trump, et dont le président Trump fait la marque de son style de négociation, en quelque sorte, c'est un problème pour les dirigeants chinois. Cela étant dit, c'est aussi une opportunité, et qu'ils sont déjà en train de saisir. Une opportunité parce que Trump braque une partie du monde, et en particulier ses alliés, et les serre sur un plateau, en quelque sorte, aux Chinois. Les Chinois étaient prêts dans le sens où finalement, ils n'ont pas à refonder leur politique étrangère, mais simplement à continuer de pousser les pions qu'ils poussent déjà depuis plusieurs années, notamment en direction de ce qu'ils appellent le Sud global. Donc il y a tout un discours en faveur d'une réorganisation du système international pour qu'il soit... D'ailleurs, c'est intéressant parce que lors du discours de Wang Yi à la conférence de Munich, donc le ministre des Affaires étrangères, il a expliqué qu'il fallait passer à un vrai multilatéralisme. Sous-entendu qu'aujourd'hui, nous vivons dans un faux multilatéralisme qui est en fait une hégémonie des États-Unis. Et donc, ça, c'est le discours que les Chinois servent au Sud global en permanence pour les éloigner du monde occidental, pas seulement les États-Unis en particulier, mais aussi le monde occidental.
Alors, on poursuivra, parce qu'il y a plein d'éléments, mais là, pour l'instant, je fais un peu un tour de table, puisque nous avons la chance de vous avoir chacun sur des domaines un peu spécifiques. Agnès Levallois, le Proche-Orient, c'est, en ce qui concerne Israël, à commencer par ce pays et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est expansion militaire et soutien américain renforcé.
Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant même d'arriver à la Maison-Blanche, de prendre ses fonctions, Donald Trump avait déclaré qu'il allait régler le problème avant même de prendre ses fonctions. Et donc, il avait réussi, si je puis dire, à tordre le bras de Netanyahou et faire en sorte qu'en janvier, il accepte la fameuse trêve dont on a beaucoup parlé, en sachant très bien que Netanyahou ne voulait pas de cette trêve et ses alliés n'en voulaient pas plus au sein du gouvernement israélien. Et donc, depuis que Trump a obtenu cette première victoire, à ses yeux en tous les cas, il a poursuivi en annonçant ce fameux plan de la Riviera, vous y fiez allusion dans votre introduction, mais on a le sentiment depuis qu'il s'en désintéresse, c'est-à-dire qu'on n'entend plus beaucoup parler de ce Proche-Orient, comme si maintenant qu'il avait fait son coup d'éclat dès le départ en disant « grâce à moi, il y a une trêve », même si celle-ci a été dénoncée par Israël début mars, et que depuis les bombardements ont repris de façon considérable. Et donc maintenant, il apporte, comme il l'a toujours fait, un soutien inconditionnel à Netanyahou. Mais on ne l'entend plus véritablement se prononcer après avoir parlé de ce plan de la Riviera pour Gaza, donc de transformer Gaza en un grand projet immobilier. Après avoir déclaré que... il avait eu au moins l'avantage, lui, de mettre un plan sur la table. Mais les pays arabes, l'Égypte en tête, ont proposé un contre-plan. Et depuis, eh bien, il n'y a plus énormément de déclarations sur la question de Gaza. Et donc, on voit bien Netanyahou complètement décomplexé qui continue à mener les opérations comme il l'entend. En revanche, on voit Trump se ressaisir du dossier iranien. Et ça, c'est un dossier évidemment éminemment important pour Trump, où là, il y a, semble-t-il, quand même un désaccord avec Netanyahou, pour l'instant en tous les cas, puisque Netanyahou ne veut absolument pas entendre parler d'une reprise de la négociation entre les Américains et les Iraniens, alors que Trump a l'air de vouloir aller vers une négociation. Mais soyons très prudents, parce qu'on sait très bien que la proposition qui pourrait satisfaire Trump ne peut en aucun cas satisfaire les Iraniens. Donc on ne peut absolument pas exclure l'hypothèse selon laquelle on pourrait aller vers une confrontation entre Israël et les Iraniens, avec évidemment le soutien américain. Donc on est dans une zone actuellement qui est une zone où on ne voit pas toujours très clairement, à part quelques déclarations fortes auxquelles j'ai fait allusion. Et puis, dernier point, peut-être on y reviendra, c'est le Yémen, où là, on voit des Américains quand même très engagés.
Intensification et qui, des opérations militaires.
Exactement.
On y reviendra, effectivement. Alors, on retourne sur le continent américain avec vous, Alain Roy. Je rappelle que vous êtes Québécois. Pour le Canada, ça a été une véritable douche froide, parce que très rapidement, on a le sentiment que Donald Trump n'était pas tout à fait informé qu'il y avait un grand marché nord-américain réunissant les États-Unis, le Canada et le Mexique, et puis bingo, droit de douane pour le voisin du Nord.
Oui, tout à fait. Ça a été très mal reçu par le Canada, parce que nos deux économies sont très imbriquées, comme celle du Mexique aussi. Et ce qui était le plus absurde dans tout ça, c'est que Trump a lancé ses droits de douane en disant que l'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, était un deal épouvantable pour les États-Unis, sauf que ce deal épouvantable, c'est lui-même qui l'a négocié durant son premier mandat. Donc, c'est comme s'il avait oublié qu'il était lui-même l'instigateur de cette entente. Et il y a plein de cas, d'exemples que la presse canadienne est allé de l'absurdité de ces tarifs. Je peux citer un cas, par exemple, celui de l'aluminium. La principale exportation du Québec aux États-Unis, c'est l'aluminium, qui compte pour à peu près 25 % des exportations. L'idée des droits de douane pour Trump, c'est de rapatrier aux États-Unis la production. Sauf que les États-Unis n'ont pas suffisamment de fonderies pour l'aluminium. Il faudrait les construire, ce qui prendrait des années. Et ensuite, les fonderies, il faut les alimenter avec de l'énergie. Mais quelle énergie? L'avantage du Québec, c'est que nous avons de l'hydroélectricité en très grand volume, à très bas prix, ce qui nous permet de vendre aux Américains de l'aluminium très peu cher. Donc, ces droits de douane, en fait, vont perturber la chaîne d'approvisionnement des États-Unis, augmenter le prix des automobiles, ce qui, en bout de piste, pourrait favoriser la Chine, par exemple. Donc, il y a quelque chose de complètement irrationnel et erratique dans tout ça. Et ces droits de douane, c'est venu aussi, il faut le dire, on est en pleine période de campagne électorale au Canada, ça a complètement rebattu les cartes. Le Parti conservateur de Pierre Poilievre, qui avait pris Trump comme une sorte de modèle, c'était une sorte de mini-Trump qui utilisait le même type de rhétorique très agressive, là, s'est trouvé dans une position très fâcheuse, parce que là, il devait se distancier de Trump, mais ça fait plusieurs années qu'il utilise la même rhétorique. Alors, le Parti libéral, dont tous les gens s'étaient lassés un peu, parce que là, Trudeau réclamait un quatrième mandat, il a été remplacé par Carney, qui est l'actuel premier ministre, qui a été gouverneur de la Banque centrale du Canada et d'Angleterre. Maintenant, est en avance dans les sondages et se dirige vers une victoire, alors que les conservateurs, il y a quelques mois, menaient par 20 points d'avance. Donc, il y a eu un revirement complet de la situation.
Revirement de la situation, on y reviendra pour évoquer, donc, vous le disiez, ces élections fédérales qui doivent se tenir lundi, donc après-demain, avec l'intégrité du territoire canadien qui s'est imposé comme en thème clé de la campagne, et puis l'Arctique qui n'a pas été oublié. On en reparle. Talks. It'll tell you a story. Money talks. Says strange things. Money talks. Very loudly. Be surprised, a friend you can buy with small change in you.
say it's a root of all evil. They say
Géopolitique avec Marie-France Chatin sur RFI.
J.J. Cale, Money Talks, ça veut dire « l'argent parle ». On poursuit avec vous quatre sur voilà, les 100 jours de Donald Trump, le monde au prisme de la présidence Trump. On retourne un petit peu en Chine, en tout cas en Asie, avec vous, Paul Charron et Philippe Golub. Bon, déjà, quelles sont finalement les opportunités de la Chine dans le contexte qui prévaut depuis le 20 janvier ? Est-ce que, d'une certaine manière, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche accélère l'agenda stratégique chinois? Paul Charron.
Je ne suis pas sûr que ça l'accélère, mais ça le rend encore plus opportun. Il faut bien comprendre que la stratégie suivie par les Chinois, comme les Russes d'ailleurs, c'est celle d'une désoccidentalisation du monde. Le message qu'ils portent, c'est celui d'une désoccidentalisation. Cette désoccidentalisation, qui prend la forme d'une multipolarisation maintenant, elle est naturalisée en quelque sorte. Ce n'est pas une configuration contingente de rapports de force, mais une nécessité historique. C'est un fait inéluctable. Le monde devient multipolaire. Et ce faisant, il devient plus juste. Et c'est d'ailleurs exactement le mot d'ordre aujourd'hui de la Chine, une multipolarité qui soit égale et juste. Et c'est exactement les quatre principes que Wang Yi a apportés lors de cette conférence de Munich.
Le ministre chinois des Affaires étrangères.
Voilà, l'égalité entre les nations, le respect du droit international, le vrai multilatéralisme et le développement économique partagé. Et ce qui est très intéressant, qu'il faut noter dans cette stratégie aujourd'hui, les petits ajustements qui sont opérés par les Chinois, c'est d'abord qu'ils s'inscrivent dans un héritage historique qui est en fait celui construit par les États-Unis. Ils récupèrent les institutions onusiennes, ils disent qu'elles sont légitimes, qu'elles sont là pour produire un monde plus juste. Donc ils se placent de ce point de vue-là en défenseurs de l'ancien monde bâti par les États-Unis, mais en même temps, ils le vident de toute substance. C'est-à-dire que c'est le sens même des mots, des concepts qui sont au cœur des Nations Unies, état de droit, droits de l'homme, etc., qui sont complètement vidés de leur substance par la diplomatie chinoise, progressivement. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies aujourd'hui ne fait absolument plus son travail. Il est complètement dominé par les régimes autoritaires et en particulier la Chine. Par exemple, la Chine redéfinit la notion de droit de l'homme, qui ne fait plus référence à des droits individuels, mais à un intérêt national. C'est aujourd'hui les droits de l'homme. Quand la Chine parle de droits de l'homme devant les Nations Unies, on peut avoir l'impression qu'elle parle de droits humains, de droits individuels. En fait, elle parle de la sortie de la pauvreté. Et c'est ainsi que, progressivement, la Chine redessine le monde à son image et écarte les Occidentaux de ses institutions. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, dans ce qu'ils appellent le Sud global, encore une fois, ce message porte, ce message est efficace. Le deuxième ajustement qu'il faut noter, c'est l'ouverture vers les Européens. Et Wang Yi, à Munich, finit son discours par un appel à l'Europe, finalement, et donc essaie, en quelque sorte, d'éloigner l'Union européenne des États-Unis.
Alors ça, c'est évidemment un dossier dont on parlera beaucoup dans l'émission de demain, mais vous avez certainement des commentaires à faire, Philippe Golub, sur ce que vient de dire Paul Charron. Je rappelle que vous avez signé un article dans Le Monde diplomatique sur le soft power. Le soft power chinois, aujourd'hui, peut s'exercer de manière assez étendue.
Moi, je ne crois pas au soft power, d'ailleurs, mais mes travaux dessus sont une déconstruction de l'idée du soft power. Comme voile, comme masque idéologique d'une ère précédente de mondialisation néolibérale où on pouvait affirmer certaines caractéristiques états-uniennes comme étant permanentes d'attractivité alors qu'elles ne le sont pas. Nous faisons aujourd'hui effectivement face à une désoccidentalisation du monde. C'est un fait sociologique, macro-sociologique, historique effectivement, que les Chinois perçoivent et qui est bien représenté, me semble-t-il, dans le fait que dans la réaction, justement, Trump représente une réaction fondamentaliste, blanche, racisante, hein, racialisée, à cette désoccidentalisation du monde, n'est-ce pas ? La base sociologique de Donald Trump, c'est une base blanche, essentiellement blanche, il y a aussi des hispaniques qui votent pour lui, mais qui est en réaction à la transformation de la société américaine en société multiculturelle et multinationale, n'est-ce pas ? Elle était déjà multinationale, elle devient multiculturelle. La part de la population anglo-saxonne d'origine blanche aux États-Unis est passée de 88% dans les années 1970-80 à 65% aujourd'hui. Et donc, il y a un changement sociologique et démographique fondamental. Et Trump représente en partie une réaction à ça. C'était un symptôme d'une réaction plus fondamentale aussi aux transformations néolibérales de la société, de la désagrégation, justement, des positions sociales et économiques de ces couches blanches moyennes, petites couches blanches moyennes aux États-Unis. Le monde est désoccidentalisé dans un sens plus objectif global, car le poids de la Chine et le poids du Sud global dans les échanges internationaux, dans la production internationale, dans les flux financiers internationaux, est aujourd'hui très importante, prédominante dans la Chine. La Chine est le premier prêteur international aux pays en voie de développement aujourd'hui. Donc il n'y a plus de centre américain, comme il y avait un centre américain ou un centre occidental, si vous voulez, comme en 1945, comme dans les années 60 ou dans les années 70. Remarque finale, quel Occident ? Quand la Chine fait appel à l'Europe, il y a des raisons de penser effectivement que l'Occident aujourd'hui n'existe pas en tant qu'unité. Il n'y a pas d'unité occidentale. On le voit bien avec le Canada. Quel Occident ? Entre la vision états-unienne aujourd'hui d'une domination par la force brute, sans partage de sa sphère d'influence et les visions européennes, il y a un gouffre. Il n'y a plus d'Occident uni. L'Alliance Atlantique est de fait morte aujourd'hui. Tout le monde en parle, l'OTAN existe, c'est vrai, l'OTAN existe et tout ça. Mais en fait, l'Alliance Atlantique n'existe plus dans le sens où l'Alliance Atlantique existait avant. Donc la Chine peut effectivement très à bon escient parler d'une désoccidentalisation. Reste à savoir si le reste du monde veut que l'hégémonie américaine d'après 1945 soit remplacée par un système dominé par les Chinois. Ça, je ne le crois pas non plus.
Alors, on y reviendra peut-être sans doute, Agnès Levallois, avec vous sur le Proche-Orient. On a évoqué Israël-Palestine, la question du Yémen avec une intensification des opérations militaires américaines. Il y a aussi la Syrie avec, en revanche, une réduction de la présence militaire américaine. Avec possiblement, et c'était un sujet qui sera intéressant d'aborder un petit peu plus loin dans l'émission, c'est un risque de déstabilisation, d'agitation, en tout cas, voilà, et on n'a pas parlé de la péninsule arabique.
Alors, pour venir à la Syrie, on voit une Washington qui est effectivement très prudente, très inquiet après la chute du régime de Assad en raison de la nature du pouvoir qui s'est installé en Syrie, avec Ahmed Ashara, qui est donc cet islamiste qui vient du monde djihadiste et donc qui inquiète beaucoup l'administration américaine. Et toutes les demandes à ce jour de levée de sanctions américaines contre la Syrie, sanctions qui avaient été imposées pour sanctionner le régime de Assad, ces sanctions n'ont toujours pas été levées, alors qu'elles sont absolument, il serait indispensable qu'elles le soient pour donner une chance à cette transition. Cette transition est délicate et fragile et très difficile, mais s'il n'y a pas de levée de sanctions bancaires contre la Syrie, eh bien rien ne sera possible et il y a un risque évident d'une dégradation terrible de la situation, alors que je considère qu'il y a une petite chance aujourd'hui, même si le profil, je le répète, de ceux qui sont au pouvoir à Damas peut en inquiéter un certain nombre. Mais si on ne fait rien et si ces sanctions ne sont pas levées, eh bien, on peut s'attendre quand même, je crains, au pire. Donc, il paraît qu'il y a toujours des négociations aujourd'hui entre ce nouveau pouvoir et l'administration américaine pour obtenir la levée de ces sanctions, parce que tous les autres pays, en fait, sont entraînés dans cela. Donc l'Europe a levé certaines de ces sanctions, mais beaucoup de pays, dont les pays du Golfe, ne veulent pas aujourd'hui reprendre toute l'aide économique qu'ils pourraient apporter au nouveau régime, de peur de sanctions, du coup, qui seraient appliquées par les États-Unis. Donc là, on voit un rôle important de Washington vis-à-vis de cette transition, qui est une transition, je le répète, j'ai coutume d'utiliser cette expression, aujourd'hui, on est sur le fil du rasoir en Syrie, et ça peut basculer d'un côté vertueux ou en partie, ou alors ça peut carrément tomber dans le chaos. Et on voit bien que là aussi, et là ça permet de faire la jonction avec les pays du Golfe, hein. On sait que Trump va se rendre dans le Golfe en Arabie Saoudite, a priori le 13 mai, si la date est confirmée. Et donc, on voit la volonté de Trump eh bien, de continuer cette relation privilégiée qu'il avait entamée lors de son premier mandat, puisqu'il avait déjà effectué son premier déplacement en Arabie Saoudite à l'époque, ce qui avait permis de nouer des relations extrêmement fortes entre les deux pays. Et là, on voit bien que dans l'idée de Trump, évidemment, c'est de continuer à avoir l'Arabie Saoudite de son côté, alors que l'Arabie Saoudite a été obligée de prendre une certaine distance en raison de la guerre menée à Gaza et de l'opposition très forte de sa population, la population saoudienne, à l'égard de la violence des bombardements et de la destruction que Israël est en train de mener dans la bande de Gaza. Et même si le prince héritier, Mohammed bin Salman, lui, a très envie d'avoir des relations privilégiées avec Washington, il ne peut pas se permettre de le faire de la même façon, en raison justement de cette violence qui s'exerce dans la bande de Gaza. Donc on voit bien que Trump va tenter, lors de ce voyage, me semble-t-il, de pousser l'Arabie Saoudite à normaliser ses relations avec Israël, qui est toujours le point pour Trump qui veut poursuivre ces fameux accords d'Abraham qui avaient été signés lors de son premier mandat en 2020 et qui avaient permis la normalisation des relations d'Israël avec, je le rappelle, les Émirats Arabes Unis, le Soudan, le Maroc et Bahreïn. Mais le poids lourd de la région qui manque dans ces accords, évidemment, c'est l'Arabie Saoudite. Donc Trump va tenter de peser, d'autant plus qu'il y a cette fameuse conférence début juin, normalement à New York, organisée par la France et l'Arabie Saoudite, et qui se base sur le plan arabe qui a été adopté, proposé par l'Égypte, qui a été adopté par le sommet de la Ligue arabe et ensuite aussi par l'organisation de la conférence islamique, et qui est une contre-proposition à la proposition de Trump qui voulait mettre en place ce projet de fameuse Riviera à Gaza.
Alors, les conséquences de Trump à l'échelle internationale, j'en reviens au Canada avec vous, Alain Roy, avec donc dans deux jours des élections fédérales, avec l'intégrité du territoire qui s'est imposée comme un thème clé de la campagne. Je le disais aussi, l'Arctique qui n'a pas été oublié. Le Canada voisin des États-Unis avec une longue frontière commune. Quelques mots peut-être sur ce scrutin et puis plus généralement la stratégie du Canada face à Donald Trump. Alain Roy.
La stratégie, c'est de rester ferme, comme disent les Américains, call the bluff, c'est-à-dire que je crois que c'est ce que les Chinois ont fait aussi. Il faut résister aux tentatives d'intimidation de Trump. Ce qui a beaucoup choqué les Canadiens, c'est lorsque Trump a eu les propos suivants, qui étaient de dire « je vais mettre des droits de douane si élevés que je vais démolir l'économie canadienne et les Canadiens, pour éviter ces droits de douane, vont alors de leur plein gré s'annexer aux États-Unis ». Donc c'était sa stratégie, qu'évidemment les Canadiens ont trouvée complètement odieuse, parce que les Canadiens ne sont pas intéressés du tout à faire partie des États-Unis. Ce que certains Américains de droite ou républicains ne comprennent pas. Ils croient vraiment être dans le meilleur pays du monde. Mais les Canadiens sont très heureux d'avoir leur pays avec une société très pacifique, égalitaire, où on peut se promener dans les rues sans risquer de prendre des balles perdues. Et avec des programmes sociaux. Donc, le Canada, comme je dis souvent, c'est un peu comme un pays d'Europe en Amérique. Mmh. Si jamais l'Européenne veut s'ouvrir au Canada, nous, on serait partants. Mais la question qu'on peut se poser aussi dans tout ça, c'est, et que je me pose, c'est l'ouragan trumpien, on est au cœur de la tempête là, ces jours-ci. Mais est-ce que ça va être simplement une parenthèse de chaos qui va durer 3-4 ans et on va après ça retrouver l'ordre mondial auquel on était habitué? Ou est-ce que vraiment l'ordre mondial va se redessiner? Donc, c'est encore trop tôt, je crois, pour le dire, mais peut-être que Trump ne sera qu'une parenthèse, finalement. Là, il nous dit qu'il voudrait revendiquer un troisième terme, un troisième mandat. Il nous dit que ce n'est pas des blagues.
C'est anticonstitutionnel, en tout cas, effectivement.
C'est ça, mais ils nous disent qu'il y a des moyens, il y a des techniques, nous avons trouvé des façons de le faire. C'est comme la blague du Canada 51e État. Au début, on croyait que c'était une blague, mais là, la blague était répétée tellement souvent, et puis il y a eu le propos dont je parlais tout à l'heure, que finalement, les Canadiens se sont dit « mais ce n'est peut-être pas une blague, et puis il faut prendre ça au sérieux ». Je crois que Trump a vraiment des velléités impérialistes, mais la question, là encore, c'est il y a ce que Trump veut, mais aussi ce que Trump peut. Par exemple, bon, il nous parle du Groenland, mais le jour où il va dire « bon, allons-y, on prend le Groenland », qu'est-ce que va dire le Pentagone? Est-ce que les généraux vont le suivre? On sait qu'il y a eu des relations très tendues avec beaucoup de généraux. Il y a des mauvaises relations avec le FBI aussi. Il y a beaucoup d'inconnus dans tout ça. Je crois que c'est pas toujours facile d'anticiper l'avenir.
Est-ce que la parenthèse Trump va durer? Je pense que c'est une question que tout le monde se pose sur tous les continents. Paul Charron, je vous vois acquiescer. Effectivement, et les Chinois se la posent aussi. Et est-ce que précisément, ils se disent que, eh bien, il faut aller le plus vite possible, gagner le plus possible pendant cette période dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, Paul Charron?
C'est difficile de savoir. Enfin, le système chinois est un système très opaque, donc difficile de cerner ce genre de réflexion. C'est d'autant plus difficile que pour l'instant, la politique chinoise des États-Unis n'est pas fixée, elle n'est pas claire. Et comme lors de la première administration, il avait fallu plusieurs mois avant que Trump décide d'une ligne vis-à-vis de la Chine. Là, à part la question des droits de douane, on ne sait pas où vont les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Est-ce que le rapprochement avec Poutine annonce une répartition du monde entre grandes puissances autoritaires ? Une partie pour la Chine, une partie pour la Russie, une partie pour les États-Unis. Est-ce que non, la Chine va rester la cible principale en tant que puissance montante des États-Unis? Et finalement, là, Trump s'inscrirait dans une forme de continuité avec les administrations précédentes. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ce qui est sûr, c'est que les Chinois continuent de promouvoir cette désoccidentalisation du monde et de redessiner le système international. Ça, c'est certain, et ça va continuer au-delà de l'administration Trump, quelle que soit l'administration qui lui succède.
Désoccidentalisation du monde, il est vrai que les questions démographiques ne sont pas étrangères à cela non plus, on en reparle. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance.
NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins.
Jill Scott Heron, Revolution will not be televised. On retrouve nos invités pour évoquer le monde au prisme des 100 jours de Donald Trump avec Philippe Golub, Paul Charron, Agnès Levallois et Alain Roy. On évoquait il y a quelques instants la notion d'imprévisibilité de la durée de la parenthèse Trump. Philippe Golub, vous souhaitiez rajouter quelque chose?
Trump était le symptôme d'un phénomène sociologique et politique interne aux États-Unis, lié à la mondialisation, lié aux transformations sociologiques internes américaines. C'est un symptôme d'un phénomène plus large dont il est devenu aujourd'hui l'expression agissante. C'est-à-dire que de symptômes, il est devenu une cause agissante de cette transformation, de cette même transformation. Une aberration qui se reproduit n'est plus une aberration, n'est-ce pas, par définition. Parler de parenthèse, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Une parenthèse vers quoi? Une parenthèse vers quoi? L'ordre international d'avant ne sera plus. Tout à fait clair, il y a une déconstruction en cours. Cette déconstruction aura des effets au niveau de l'équilibre des pouvoirs, que ce soit au profit de la Chine ou simplement au profit d'une décentralisation plus forte du système international, ce à quoi je crois, une décentralisation plus forte, avec des pôles différents, des centres différents, une forme de polycentrisme, mot que je préfère à la multipolarité. Mais on ne reviendra pas à avant, parce que les dirigeants internationaux, les dirigeants hors des États-Unis, ne pourront plus être assurés qu'il n'y aura pas, même si on passe aux démocrates lors des prochaines élections présidentielles américaines, s'il n'y aura pas à nouveau un soudain changement brusque de la politique internationale des États-Unis. Et donc, les États-Unis sont devenus un acteur imprévisible de la politique internationale, dont la politique internationale est déterminée par les soubresauts profonds de la société américaine en interne. Il n'y a plus de stabilité de l'ordre international. Et ça, je pense que le monde, le reste du monde, devra se restructurer et se réorganiser en fonction de ça. De plus, il n'est pas impossible de penser qu'on va vers un système autoritaire profond aux États-Unis. Il n'est pas impossible de penser. Les mesures qu'ils ont prises aujourd'hui contre les immigrés légaux et dits illégaux, n'est-ce pas ? Sans documents, sont des mesures dictatoriales. Et pour l'instant, les cours n'ont pas réussi, y compris la Cour suprême n'a pas réussi. On ne sait pas ce que la Cour suprême, in fine, va dire sur ce sujet. N'ont pas réussi à contenir ces efforts-là. Ils sont en train de créer, l'administration Trump est en train de créer une zone d'illégalité, de lawlessness, d'illégalité flagrante envers les gens. Trump a annoncé lui-même, il y a quelques jours, que les déportations initié contre les immigrés, contre les migrants, ils voudraient les mettre en œuvre contre des citoyens états-uniens, des citoyens américains. C'est-à-dire qu'ils pourraient prendre, parce que pour des raisons de volonté politique, un citoyen américain et l'envoyer dans le goulag au Salvador. Et là, on n'est pas loin aujourd'hui. Des commentateurs très sérieux aux États-Unis pensent qu'on est au bord. On n'y est pas encore, mais on est au bord d'un système autoritaire de type stalinien, de type stalinien, je dis ça plutôt que de dire fasciste, parce qu'on utilise fascisme à tous les os, mais de type stalinien aux États-Unis. On n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il y aura un renversement du système international, peut-être une tripartition autoritarisme États-Unis, autoritarisme russe et chinois. C'est un monde vraiment, Orwell ne l'aurait pas mieux imaginé, n'est-ce pas?
En tout cas, est-ce que, évoquait à l'instant Philippe Golub, Paul Charron, finalement, d'un côté, l'hystérie américaine qui bouscule tout, qui détruit tout, et ça, le président chinois l'a bien compris, en tout cas, a bien compris l'intérêt de se présenter comme un partenaire fiable à tous les niveaux.
Oui, comme un pôle de stabilité. C'est exactement la ligne que la Chine promeut en ce moment. La Chine se présente comme un partenaire, enfin comme un acteur de l'ordre international, non seulement capable de maintenir l'ancien monde en quelque sorte, même s'il le transforme, comme je le disais tout à l'heure, mais d'apporter de la stabilité. maintenir le fonctionnement de l'ordre international, des échanges commerciaux, du respect de la souveraineté des nations, etc., face à ce chaos apporté par l'administration Trump. C'est exactement leur ligne, en effet.
Alors, je le disais en introduction, Donald Trump, qui voulait résoudre tous les conflits du monde, que ce soit l'Ukraine ou que ce soit Gaza, Agnès Levallois, évidemment, ça n'a pas marché. En tout cas, l'homme des deals renoue avec l'Iran, on l'a évoqué précédemment. Un accord avec l'Iran sur le nucléaire vous semble quelque chose de possible dans un avenir proche ?
J'avoue que j'ai quelques doutes quand même sur la capacité de Trump d'arriver à un accord avec les Iraniens. Je rappellerai simplement que cet accord avait été signé en 2015 par son prédécesseur Obama, qu'il avait dit à l'époque que c'était le pire deal du siècle et qu'il fallait absolument le remettre en question, ce qu'il a fait en 2018 en sortant de ce fameux accord, qui a d'ailleurs été du coup l'occasion pour l'Iran de reprendre l'enrichissement de l'uranium, considérant que si les Américains étaient sortis de l'accord, il n'y avait aucune raison qu'eux le respectent, parce qu'ils l'avaient respecté pendant les 3 ans qu'avait duré quand même cet accord. Et donc aujourd'hui, on voit un Trump qui revient en disant « Mais oui, il faut signer un accord avec les Iraniens. » Alors, il me semble que dans l'idée de Trump, c'est de considérer que l'Iran est affaibli. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Iran est affaibli sur la scène régionale avec la fin de ce qu'on appelait l'axe de la résistance, c'est-à-dire que depuis la guerre menée à Gaza, l'affaiblissement du Hamas et du Hezbollah, on a un Iran qui est affaibli et qui est recentré sur lui-même avec la priorité aujourd'hui de ce régime iranien, c'est de le sauver, c'est-à-dire c'est de sauver les fondements même de la République islamique. Et donc Trump doit avoir l'idée qu'avec un régime affaibli, il peut négocier un accord, sauf que je ne crois pas que les Iraniens aujourd'hui soient prêts à tout et à accepter n'importe quoi de cet accord. Est-ce que du coup ce sera l'occasion pour Netanyahou, qui lui est fou furieux contre Trump, que Trump remette cette question d'accord sur la table? Eh bien, ça sera l'occasion de Netanyahou de le dire à Trump. Vous voyez bien, de toute façon, on ne peut pas négocier avec les Iraniens. Donc maintenant, il faut attaquer. Et donc maintenant, il faut mener cette guerre. On sait que Netanyahou veut absolument que cette guerre se déroule contre les installations nucléaires iraniennes. Il ne s'en cache pas. Netanyahou est aujourd'hui dans une logique de toute puissance. Quand on voit la façon qu'il a de mener la guerre à Gaza, la façon qu'il a eu de mener au Liban, en sachant qu'il y a encore tous les jours des bombardements au Liban, alors que la trêve est respectée côté libanais. Et donc Netanyahou entend bien profiter de cette séquence pour continuer sur l'Iran, même si aujourd'hui Trump dit qu'il ne le souhaite pas et qu'il préfère un accord. Mais je pense qu'on ne peut absolument pas exclure aujourd'hui le risque, en tous les cas, d'une guerre menée contre les Iraniens, en dépit de ces négociations qui se déroulent essentiellement dans le sultanat d'Oman.
Alors, on repart sur le continent américain avec vous, Alain Roy. On a évoqué le sort fait par Donald Trump au Canada. Les Mexicains partagent les mêmes inquiétudes que le Canada. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, voilà, c'est un peu un bouquet de questions pour terminer cette émission, que finalement, les États-Unis se retrouvent aujourd'hui plutôt isolés? En tout cas, leur image est plutôt largement écornée. Et est-ce que les élections de mi-mandat, donc en novembre 2026, c'est-à-dire en novembre de l'année prochaine, eh bien, est-ce qu'elles pourraient contraindre ces élections, Donald Trump, à infléchir d'une certaine manière sa politique étrangère sur l'isolement des États-Unis sur le continent américain, Alain Roy ?
Mais c'est sûr que leur image a été sérieusement amochée avec tout ce qu'on voit depuis 3 mois. Au Canada, il y a un mouvement de boycott des États-Unis que les gens suivent.
Sur les produits américains importés
Oui, tout à fait. Par exemple, il n'y a plus d'alcool américain dans aucun magasin. Tout ça a été retiré des tablettes. Les Canadiens ne veulent plus voyager aux États-Unis, au point que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, fait des sorties pour dire aux Canadiens « S'il vous plaît, revenez en Californie », parce que les Canadiens sont quand même un des principaux pays dans les rapports commerciaux des États-Unis, un des pays les plus importants avec le Mexique et la Chine. Donc, il y a ce mouvement de boycott qui est très fort. Il y a beaucoup de Canadiens ont aussi des propriétés, comme en Floride. Ils les vendent en masse actuellement pour quitter les États-Unis. Et maintenant, au Canada, ce qu'on se dit, c'est une bonne chose qui va ressortir de la situation, c'est que c'est important pour le Canada de diversifier ses marchés, donc de se tourner davantage vers l'Europe, de se tourner vers l'Asie aussi. Parce que de tout mettre ses œufs dans le même panier des États-Unis, les États-Unis représentent 3/4 de nos exportations étrangères. Il y a tout un marché intérieur aussi, évidemment. Mais on se dit que à cause de Trump et de tous ses droits de douane, maintenant, il faut se tourner vers le monde, vers aussi l'Amérique latine.
C'est une vraie rupture, c'est ce que vous évoquiez précédemment, Philippe Golub. On ne reviendra jamais en arrière. Et les consciences sont là pour se rendre compte eh bien, que peut-être les autoroutes sur lesquelles nous nous trouvions n'en sont plus des autoroutes,
oui, Philippe Golub. Oui, effectivement, le monde aura changé. Des faits objectifs auront été créés qui peuvent être en partie remédiés par une diplomatie plus intelligente à l'avenir de la part d'une administration future hypothétique plus portée sur les droits, les droits de l'homme, bon, et une diplomatie plus classique. Mais les dégâts auront été effectués. Et je pense que les élections de mi-mandat, ce n'est pas demain matin, c'est après-demain, n'est-ce pas? Et entre aujourd'hui et les élections de mi-mandat qui seront peut-être gagné par les démocrates, et ce sera peut-être seulement une des chambres, n'est-ce pas, le Parlement lui-même, le House of Representatives. D'ici là, les dégâts vont être très importants. Les dégâts internes, les dégâts externes, n'est-ce pas? Les dégâts internes, l'effort de mise au pas des universités, des grandes universités américaines, de destruction, alors c'est quelque chose de très difficile à comprendre, de destruction de pans entiers de la recherche de pointe aux États-Unis, n'est-ce pas, dans un moment de compétition internationale technologique et scientifique de plus en plus intense, de mise au pas aussi des administrations, de destruction des administrations fédérales, c'est-à-dire de l'élimination de compétences très importantes. On ne reproduit pas des administrations comme ça du jour au lendemain. Donc, il y aura beaucoup de... Pour reconstruire, il faudra refonder en interne pour pouvoir refonder une nouvelle politique internationale. Ce sera très difficile. On ne reviendra pas à avant, dans la manière dont c'était avant. D'autant plus qu'avant, c'était pas une panacée non plus. L'ordre libéral international incarné par la politique internationale des États-Unis depuis 1945 n'était pas un ordre entièrement pacifique, n'est-ce pas? C'est pas un ordre parfait. C'est sans doute un ordre meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il faudra repenser l'ordonnancement du monde.
Et très clairement, en guise de conclusion, il nous reste une minute, Paul Charron. La Chine se frotte les mains, c'est-à-dire que plus les États-Unis s'agitent dans tous les sens avec une capacité finalement à détruire tout ce qui... C'est du pain béni pour les Chinois.
Oui, alors du pain béni, c'est peut-être un peu fort, mais parce que c'est pas sans conséquence pour l'économie chinoise. Et donc, une instabilité de l'économie chinoise pourrait avoir des conséquences sur la stabilité du régime politique. Et ça, c'est l'obsession du Parti communiste chinois. Donc, il faut pas l'oublier. Mais... il est vrai que la politique de Donald Trump aujourd'hui accélère le remplacement sur la scène internationale des États-Unis par la Chine. Ça, c'est évident. Même si ça prendra sans doute un certain nombre d'années, ce qui se passe en ce moment peut inciter des partenaires des États-Unis à trouver d'autres options. Et parmi ces options, il y a la Chine.
Merci Paul Charron. Je rappelle que vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Merci aussi à Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO et chargée de cours à Sciences Po, auteur du Livre noir de Gaza aux éditions du Seuil. Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris, auteur d'un article paru dans Le Monde diplomatique, Les masques du soft power. Et Alain Roy, écrivain, éditeur et traducteur, directeur de la revue québécoise L'Inconvénient. Son dernier livre, Le 4 Trump, portrait d'un imposteur, qui vient de paraître aux éditions Éco-Société. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation, Italie Pouot. Vous êtes bien sur RFI. Restez à notre écoute. Dans quelques instants, RFI Soir et tout de suite le journal.